Je vais commencer par lire un petit texte qui pour moi en tout cas exprime bien la pratique. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je tombe dans le trou. Je suis perdue, désespérée. Ce n'est pas ma faute. Cela me prend une éternité pour en sortir. Je marche dans la même rue, sur le trottoir, il y a un grand trou. Je prétends que je ne le vois pas. Je retombe encore dedans. Je n'arrive pas à croire que je me retrouve de nouveau dans ce trou. Mais ce n'est pas ma faute. Et de nouveau, cela me prend longtemps pour en sortir. Je marche dans la même rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je vois le trou. Je tombe encore dedans. C'est devenu une habitude. Mes yeux sont grands ouverts. Je sais très bien où je suis. C'est ma faute. J'en sors rapidement. Je marche dans la même rue. Sur le trottoir, il y a un grand trou. Je le contourne. Je marche dans une autre rue. Il s'agit, si jamais vous voulez le lire, c'est assez simple à trouver, du poème qui s'appelle « L'autobiographie en 5 actes » de Portia Nelson. C'est pas un peu ce qu'on a vécu et ce qu'on vit. Ça prend du temps, hein, pour prendre une autre rue. Et pourtant, on apprend à chaque étape. C'est vraiment un cheminement lent. Beaucoup d'entre vous l'avez dit, qui demande courage, engagement, patience, beaucoup de qualités. Mais il y a des moments où on éprouve et on est au contact de la qualité dont je vais parler ce soir, qui est l'équanimité. On en a parlé, on l'a même exercé. Et puis, je crois que dans notre pratique méditative et bien certainement aussi dans notre vie, cette qualité est unique. Unique quant à pouvoir nous donner la possibilité de rencontrer les difficultés. À de nombreuses reprises, on va naturellement éprouver des hauts et des bas. La vie est ainsi. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, je crois que vous l'avez vraiment vécu de très près et vous êtes encore en train de le vivre et on le vit dans nos vies et vraiment c'est quelque chose qui est tellement palpable quand on passe un jour, deux jours, trois jours, voire même beaucoup de jours au contact de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette qualité? Que signifie peut-être le manque d'équanimité, naturellement, attachement et aversion? Comment se manifeste cette qualité? Elle est très présente dans l'enseignement du Bouddha. On en a parlé, Pascal a parlé quelque part, il n'a peut-être pas mentionné le terme, mais de ces facteurs qu'on nomme les facteurs d'éveil. Et il y a la notion d'attention, il y a l'investigation, l'intérêt, l'énergie, la joie, ensuite le calme, la concentration et l'équanimité qui est quelque part le point culminant. Et ceci pour tout processus. Ce n'est pas à nouveau quelque chose qui fait que voilà, je vais développer, mais il y a une composition qui fait que l'équanimité, par moment, émerge. Donc, c'est un facteur d'éveil. C'est aussi une des qualités qui apparaît très clairement dans ce qu'on appelle les illimités. C'est le quatrième. La bienveillance, la compassion, la joie empathique. Et le quatrième illimité est l'équanimité. Cette dimension de pouvoir être en équilibre et nous donner un peu de stabilité pour ne pas verser dans l'attachement lorsqu'il y a cette dimension d'amour altruiste et que ce n'est pas de l'égoïsme, La même chose, ce n'est pas de la pitié. Lorsqu'il y a cette disponibilité de pouvoir être ouvert à la souffrance sans résistance. Et c'est cette extraordinaire possibilité d'aller trouver et sentir un peu plus de stabilité. Maintenant, il ne s'agit pas d'un état particulier, c'est vraiment à nouveau le rapport à l'expérience. Il y a aussi l'équanimité qui émerge comme facteur d'équilibre par rapport à ce qu'on appelle les 8 vicissitudes de la vie, les aléas de la vie. Et j'en parlerai un petit peu plus loin. C'est évident qu'on fait tous l'expérience des hauts et des bas, des aléas. Donc, si on veut quelque part donner un petit peu d'amplitude, on va dire que cette dimension, elle aide tout au long du chemin, elle aide à la stabilité. Elle aide à demeurer stable dans les situations favorables et défavorables. Favorables et défavorables. En personne, en présence de personnes agréables et désagréables. Donc, en toute situation. Cet aspect-là nous permet de voir les choses comme elles sont, de voir les gens comme ils sont. Qui implique qu'il n'y a pas cette dimension d'ajout, d'opinion, de jugement, en tout cas beaucoup moins, et qu'on peut à ce moment-là voir plus clairement qu'il y a la présence et qu'on peut réellement percevoir la situation comme elle est, et non pas filtrer de la manière où nous nous projetons sur l'autre, nos idées et nos jugements. Donc on voit vraiment les êtres, les situations, comme elles se c'est cet aspect-là, en tout cas pour moi, qui m'a été tellement parlant quant à voir un petit peu plus la réalité et percevoir la vie comme elle est et non pas à travers le filtre de mes idées, mes opinions, comme en a parlé Pascal, ou à travers les émotions qui nous perturbent, comme en a parlé Charles. Donc, on peut dire que lorsqu'il y a un peu plus de stabilité, eh bien, il y a une position dite du juste milieu. Il y a quelque part une dimension, non pas d'indifférence, mais d'un peu plus de neutralité. On n'est pas complètement pris dans les passions. Du coup, on se donne aussi l'espace, il y a possibilité de se détendre. Et c'est exactement ceci qui se manifeste. C'est-à-dire le temps de la détente, de la pause, pour pouvoir évaluer la situation. Et c'est vraiment ça, je crois, qu'on a beaucoup cultivé ici. Le temps de la détente, de se laisser vivre et d'être dans cette dimension d'être pour évaluer la situation plutôt que immédiatement réagir, ce qu'on fait habituellement. Vous êtes d'accord ? Ça vous parle, ça ? C'est quelque chose qui a été naturellement éprouvé, ce qui veut dire que plutôt que soit immédiatement s'emporter, c'est-à-dire réagir de mille manières, hein, je peux en décrire mille, ou au contraire se replier, c'est-à-dire aller vers le repli et le rejet, le déni, eh bien on est à même de demeurer engagé, impliqué, intéressé, ouvert à la situation, donc participant, mais d'un espace où il y a un petit peu plus, voire beaucoup plus, de largesse d'esprit. Donc on a une plus grande perspective de la situation. Lorsqu'il y a attachement-aversion, on est complètement enfermé, quelque part limité. Et ça, ça va dans le sens de plus d'ouverture. Donc qu'est-ce que ça implique ceci ? Ça implique que l'esprit est tout simplement plus équilibré que d'habitude. C'est déjà extraordinaire d'avoir un esprit un tout petit peu plus équilibré. Et je suis sûre que par moment, vous pouvez, en tout cas pour vous-même, avoir cette expérience en direct. Non, c'est pas juste la vipassana par référence, dans le sens de Ah oui, ce serait bien, mais vous l'avez vécu ceci. Vous voulez lever la main par rapport à qui a eu quelques brides, quelques moments où il y a eu cette dimension de waouh, plein de gens. Et c'est génial, non, de pouvoir entendre un enseignant puis de se dire, tiens, ah ouais, ça me parle. Je l'ai vécu, je l'ai éprouvé, je l'ai ressenti. Donc on l'a vécu, on l'a éprouvé. Ce qui veut dire que ça peut se repasser. Ça peut partir, mais ça peut aussi, quelque part, se retrouver. Parce que c'est comme ça, la vie. Et donc, lorsqu'on fait l'expérience de cet équilibre, eh bien, on sent quelque chose d'un tout petit peu plus centré. Par moments, même voire beaucoup plus centré. Et moins de perturbations. Avec les situations comme elles sont. Les situations externes, elles sont, ou les conditions internes, sont les mêmes. Mais c'est l'esprit lui-même qui est à même de pouvoir percevoir, intégrer, comprendre la situation autrement parce qu'il y a plus d'équilibre. Donc on dit qu'il y a tout un, comme bien sûr comme pour la concentration, comme pour la présence, hein, on a beaucoup cultivé la présence. Non? Et donc de ce fait, elle est un petit peu plus vivante et palpable en nous. Comme pour toute qualité, cette qualité aussi, elle se nourrit. Elle, quelque part, elle se développe, elle se cultive. Et peut-être qu'au début, ben, on va avoir une toute petite graine. Et puis, progressivement, il y a naturellement quelque chose qui fait que par moment, eh bien, on peut ressentir ce qu'on appelle un équilibre inébranlable. Alors, on va dire, waouh, ça alors, c'est de l'équanimité, c'est de la haute voltige. Eh bien, oui, mais on ne peut pas quelque part l'éprouver par la volonté, à nouveau. C'est vraiment toutes les conditions qu'on a cultivées et qui permettent l'éclosion de cette dimension-là par moment. Et on va naturellement avoir cet aspect qui émerge et qui va s'en aller. Donc on peut se dire comme ce serait fantastique de vivre avec cet état d'équilibre tout le temps, en toute situation. Bien sûr, on a beaucoup d'attentes. De désir, d'expectatives, mais pour la plupart d'entre nous, cette qualité, eh bien, on la ressent et on la perd. On la ressent et on la perd. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et quand on la perd, eh bien, forcément qu'on va tout faire, et finalement, on va avoir du désir attachement pour essayer de la retrouver. Et du coup, qu'est-ce qu'on cultive? C'est le plaisir attachement. Et de ce fait-là, on ne va certainement pas goûter à l'équanimité. Donc, c'est cette possibilité de pouvoir aller dans le sens de céder. Et qu'est-ce qui va nous aider? C'est la présence, dans le sens que là, je vous donne quelques éléments peut-être pour la vie de tous les jours. Et j'aime beaucoup ces trois dimensions. Pause, détente, ouverture. Pause, détente, ouverture. Et c'est exactement ceci qui va aider à pouvoir simplement être en accueil des choses comme elles sont. Donc ça donne principalement de la stabilité à l'esprit. Plutôt qu'il soit complètement fluctuant, comme a dit l'autre soir Pascal, vacillant, flickering, eh bien, c'est l'opposé de vacillant. C'est stable, stable. Alors, ça ne veut pas du tout dire, ici, souvent les gens se disent, mais oh là là, il faut un super niveau de concentration. Et ce n'est pas du tout la même chose que la concentration. Bien sûr que la stabilité, elle vient là de la présence. Une continuité de la présence, c'est pour ça qu'on a énormément parlé de ceci, c'est que c'est au niveau même de la présence, plus cette présence est cultivée, plus il va y avoir cette disponibilité à ressentir de la stabilité au sein même de la présence. Et donc, pas forcément concentré sur une expérience spécifique. On n'est pas du tout là en train de nourrir un état particulier. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre. Parce que souvent, on se dit, ah oui, c'est un état que je veux cet état-là, et pas celui-là. Mais c'est le processus. C'est au contact du processus. Et c'est dans le processus que cette stabilité se retrouve. Donc, au contact d'une sensation douloureuse, de l'agitation mentale, de l'inconfort, d'une joie qu'on a pu avoir, d'une expérience extrêmement agréable, puis qui tout à coup, ben, n'est plus là. Puis, waouh, ok. Je peux lâcher prise, j'ai pas besoin que ce soit toujours comme ceci. Vous voyez dans quelle mesure l'équanimité peut émerger, et de la même chose dans notre vie. La journée peut commencer de manière tout à fait normale et tout à coup un événement, même petit, vient perturber l'équilibre. On rate le bus ou comme l'autre matin, j'ai laissé brûler le pain dans le grill. Et du coup, waouh, catastrophe, perturbation intérieure, qu'est-ce que j'ai fait? Et il aurait pu y avoir beaucoup de jugement, beaucoup de blâme et puis d'instabilité. Et puis, on rit de la situation. On la prend à la légère. Et de là émerge un petit peu plus l'équanimité. Donc, un tout petit événement peut troubler par moments toute la journée. Comme un tout petit événement, peut-être prise de pause, détente, ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on investigue. Et cette dimension de « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant ? Comment est-ce que je peux retrouver une dimension de stabilité dans la situation ?» Et très, de manière très palpable en fait, on sent tout à coup l'esprit qui naturellement va prendre en compte ce qu'on lui donne. Alors c'est très différent de l'indifférence. Un état qu'on peut confondre et qui est exactement l'opposé, c'est pas du tout de l'indifférence. Et souvent, équanimité et indifférence sont pris l'un pour l'autre. Il n'y a pas de déni dans cette qualité-là. Au contraire, il y a de l'engagement, il y a de l'activité, il y a de la participation. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est de la saisie. Donc, on peut, si on veut, ça peut laisser entrevoir la possibilité que cette équanimité, certains aiment à la décrire comme de la non-saisie ou du non-attachement. Et il est dit, justement, dans l'enseignement, que c'est une qualité où il y a l'absence d'attachement et d'aversion. Donc ça c'est quelque chose qui nous parle par rapport à ce qu'on a découvert et cultivé. Donc, quelle est la cause proche? Pour chaque qualité, il y a une cause proche. Il y a la présence. Mais la présence, quelque part, avec aussi cette coloration d'acceptation, d'ouverture, de pouvoir vraiment laisser les choses être comme elles sont. D'où vous entendez là, le vipassana, voir les choses comme elles sont. Donc, une des causes proches, c'est l'acceptation. Quelque part, c'est vraiment OK. Ce qui arrive là, c'est OK. En tout cas, si c'est un processus, c'est quelque part l'effet, c'est je vais contre, je réagis, on va puis à un moment donné, peut-être d'épuisement, je me dis OK, lâche. Et tout à coup, il y a de l'acceptation. Et cette acceptation va permettre un nouvel équilibre. L'autre qualité qui naturellement laisse émerger l'équanimité, c'est la patience. Une vertu extraordinaire que la patience. Donc, La patience va nous aider à nourrir l'acceptation. L'acceptation va nous aider à demeurer en présence. La présence va nous amener à cette dimension de plus de stabilité. Donc ça, c'est vraiment dans la pratique, quelque part, de Vipassana, du discernement et pour la liberté, dans le sens de percevoir la nature des phénomènes, comme on en a déjà bien parlé, la nature d'une expérience. Donc, la base ici est solide et on demeure dans son être plutôt que de nourrir toutes ces perturbations souvent basées dans l'ego. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir ressentir l'équanimité en lien avec ce qu'on appelle les huit vicissitudes. On connaît très bien ça. Les huit paires d'opposés, que sont d'un côté le gain et la perte. D'un côté le gain et la perte. Donc ça en fait deux, déjà une paire. L'autre, plaisir et douleur. Deuxième paire. Troisième paire. Louange et blâme. Quatrième paire. Bonne et mauvaise réputation. On fait tous, non? L'expérience de ceci. Wow, c'est génial, c'est fantastique ce que tu as fait et tout, bravo, t'es la meilleure. Et puis la même personne va dire non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Voilà. Il y a les louanges et il y a les blâmes. C'est extraordinaire en tant qu'enseignant combien on peut avoir ceci très vivant et surtout dans un contexte où on peut dire mais oh, cet enseignement était magnifique. Et puis voilà. Ou peut-être vous pouvez le dire, ne pas le dire, le formuler par le formuler. Et rien n'est personnel. Si on commence à prendre les choses personnellement, alors là, on est bon pour avoir beaucoup, beaucoup de douleur intérieure. De la même manière que dans la vie, il y a des gains et il y a aussi des pertes. Mais ça ne veut pas dire peut-être qu'il y a des pertes qui sont ressenties au moment où on les perd, on se dit c'est la catastrophe. Et puis, vu le cycle de la vie, eh bien, il se peut qu'une perte nous permette de manifester un nouveau gain. Parce que c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Donc, très souvent, par rapport à ces huit types de manifestations, comment est-ce qu'on va se ressentir? Eh bien, l'espoir de pouvoir ressentir les louanges, les gains, les plaisirs, la bonne réputation, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aimerait tout le temps reconnaître, et puis de craindre l'inverse. Je ne vais pas les reformuler, mais on vit constamment avec ça. Espoir, espoir, espoir d'avoir que des gains, que des plaisirs, que des louanges. Que ce qui nous plaît en fait, ce qui flatte l'ego. Et puis surtout pas vivre les opposés. C'est pas réaliste. L'enseignement va vous dire simplement qu'on peut être très optimiste. Et je crois que c'est très important d'être optimiste, mais c'est là juste pas réaliste. C'est pas comme ça que la vie est. Donc, élargissement de l'expérience intérieure et d'avoir une position aussi de stabilité. Et pouvoir se rendre compte que l'équanimité va nous aider à vraiment ouvrir la compréhension pour dire ben, « Oui, en ce moment, il peut y avoir un gain. Et puis, demain, peut-être que ce sera une perte. » Pour des petits événements de la vie, comme pour des grosses choses. Et que là, c'est vraiment, quelque part, le cycle de souffrance ajouté en rapport avec l'attachement et l'aversion. Donc, dans nos vies, on peut vraiment découvrir ça. J'ai un très bon exemple, c'est un jour, à la porte, dans notre appartement à Genève, le facteur qui me donne une lettre commandée, j'ouvre, fin de bail, dans un appartement absolument sublime qu'on habitait, où il y avait le centre de méditation, donc c'était vraiment waouh, une grande nouvelle, je peux vous dire. Et puis, bon, catastrophe. C'est vraiment comme si la vie se dérobe sous nos pieds. Là, on n'a pas de stabilité du tout, complètement ébranlé. Et puis, voilà, comme c'est une promenade avec la nouvelle, comment on peut faire et tout. Puis c'est très intéressant parce que ça a duré longtemps. On a fait vraiment recours, fait durer l'aventure. Vraiment, ça a duré au moins 3-4 ans où on a, en Suisse, on est protégé. Certainement qu'en France aussi, je ne sais pas dans ce cas. Mais quelque part, on a vraiment mis le temps pour essayer d'avoir un gain de cause. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, en tout cas moi je me rends compte, voilà, on va perdre. On va vraiment perdre. Il faut accepter la situation. Et puis cette situation, eh bien, ça a mis du temps pour que voilà, ça mûrisse et qu'on se dise, bon, ben, la réalité est ce qu'elle est. Et c'est très intéressant de voir qu'on se trouve aujourd'hui dans un appartement, bien des années plus tard, beaucoup plus petit, mais où on se sent beaucoup mieux, où on a vraiment quelque part, je ne sais pas, un environnement qui est beaucoup plus plaisant pour nous que dans le quartier où on était. Et en plus, ça donnait lieu à la possibilité d'ouvrir un centre, c'est-à-dire d'avoir une salle de méditation, une vraie, plutôt que les gens qui viennent dans notre appartement. Donc là, c'est, pour moi, c'est, là, ça a été vraiment une expérience de vie tellement intéressante par rapport à nourrir l'équanimité, ce que un jour j'ai cru était une perte absolue, et puis finalement, quelque part, l'effet, c'est plus de gains, beaucoup plus de gains. Donc on ne sait jamais le cycle de la vie. Donc dans cette situation-là, eh bien, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend la vie. C'est exactement la vie. Ah ouais, là, finalement, qu'est-ce que j'ai dû appeler, bien sûr, de la présence, pause, détente, ouverture, réaction, super réaction. Non, c'est pas juste, injustice, pourquoi nous, colère, enfin voilà, toutes les manifestations qu'on connaît très bien. Et puis petit à petit, je me suis dit, ok, ben lâche, quoi. Je veux dire, après avoir fait tout ce que, ce que t'as pu faire et autres, lâche. Et puis, dans ce lâcher-prise, c'est extraordinaire que l'équanimité, ben, c'est dans ce processus, lentement, mais sûrement, que l'équanimité, à nouveau, a émergé dans une situation de vie tout à fait déplaisante au départ. Et qui a finalement eu un résultat tout à fait heureux, parce qu'il y a bien plus de gens qui peuvent fréquenter le centre et puis recevoir le Dharma. Donc on apprend un tout petit peu mieux à répondre aux situations et surtout accueillir ce qui arrive et donc à s'accompagner. Et vraiment, tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on est en train de faire et qui se passe dans un régime de retraite amène à cette réalité. Non pas d'avoir d'autres situations, mais qu'on va retrouver, certes, je pense, tout un chacun plus ou moins les mêmes conditions de vie, mais peut-être une disponibilité et une intériorité, une capacité de pouvoir être en lien avec ce qui va se présenter d'une manière un petit peu plus détendue déjà, spacieuse, ouverte, et puis c'est pas à pas, lentement. Il y a une petite histoire qui, elle est soufie, elle exprime bien ceci. La clôture d'un paysan se brisa et son cheval prit la fuite. Il n'avait plus de cheval pour l'aider, au dur labeur de labourer son champ. Son voisin vint à sa rencontre et lui dit qu'il n'avait vraiment pas de chance. Le paysan répondit que tout irait bien. Le lendemain, son cheval revint avec une belle jument. Le voisin vint à nouveau à sa rencontre et lui dit que finalement, il avait vraiment de la chance. Le paysan répondit qu'on verra bien. Le fils du paysan se mit en tête de dresser la jument, mais cette dernière était très fougueuse et il chuta et se brisa sérieusement la jambe. Le voisin accoura et lui dit qu'il avait vraiment la poisse finalement. Le paysan lui répondit que tout irait bien. La guerre éclata. et les officiels passèrent de village en village pour recruter de force tous les jeunes. Mais le fils de notre vénérable paysan avait une jambe brisée, alors il dut rester à la maison. C'est exactement ceci, le contexte de la vie. C'est tellement beau cette histoire, dans le sens que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maintenant, j'aime beaucoup l'attitude du paysan. Hein? Pas mal, non? C'est un excellent exemple pour l'équanimité. Il ne s'est pas posé 36 000 questions inutiles. Une sagesse simple, justement, au sens agricole. Pas trop de spéculation philosophique. Pas trop de pensée magique, pas trop de complexité, aucune question inutile. Face à un problème, il y a une solution. Face à un problème, il y a une solution. Faire ce qui est nécessaire pour simplement être en accueil d'une situation. Ça, ça demande une sagesse, mais non pas philosophique, justement, la simplicité. Je crois ordinaire. Et c'est vraiment ça, dans cette dimension de simplicité, de pouvoir goûter. Et je crois que pour tout un chacun, en tout cas, il y a eu des moments où, waouh, on se satisfait de tellement peu ici, quelque part. Peut-être qu'il y a plein des moments où on n'est pas du tout satisfait, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même des fois où on se dit, wow, on a si peu et pourtant il y a tellement de richesses qui émergent de notre capacité à pouvoir être à la rencontre de ce qui vient. Donc, faire ce qui est nécessaire pour pouvoir être en accueil, résoudre un problème dans une attitude de détente, et naturellement que par moment reconnaître l'inéluctable que c'est le courant naturel de la vie qui prend son cycle. Donc à nouveau, c'est vraiment cette dimension de stabilité. La métaphore pour l'équanimité est la montagne. Et on en a des belles ici. Il y a plusieurs personnes qui ont dit oh, « j'ai été tellement aidée par la montagne !» C'est extraordinaire, cette force tranquille, bien plantée, bien centrée. Et quelque part, cette montagne qui peut, là vraiment, elle a reçu beaucoup de soleil et peu de pluie, mais qui pourrait être capable de recevoir... le vent, j'imagine, la tempête, l'éclair, enfin tous les types de bourrasques, et elle demeure là. Donc cette image de la montagne, elle peut nous aider, c'est certes, elle peut vraiment nous aider. Moi, elle m'a énormément aidée dans maintes situations où tout à coup ça permet l'éclosion et la dimension de « ok, c'est ok, c'est ok ». On va chercher la stabilité plutôt que s'agiter complètement, devenir anxieux. Et c'est possible. C'est possible que de nourrir une qualité qui naturellement va nous aider. Maintenant, cette stabilité, elle est aussi, donc c'est cette force de la montagne, mais il y a également cette disposition de l'esprit, on en a parlé un petit peu, où l'esprit est malléable. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a pas moins de saisie. Du coup, vous sentez qu'il y a moins de rigidité. Hein? Même il y a bien des gens qui ont dit ouais, « la douleur qui était tellement forte et physiquement j'étais en pleine contraction, tout à coup là, il y a beaucoup plus de souplesse et qu'il y a de la détente. » Et la détente, naturellement, la détente physique va aider à la détente de l'esprit, la détente du mental. Donc, il peut recevoir, qui veut dire qu'il peut s'adapter. Donc, il y a une force là, d'être stable, centré, et en même temps, ajuster. Et c'est vraiment cette dimension d'ajustement qu'on peut s'ajuster en lien avec la situation. Il y a de la souplesse. Donc on peut imaginer que, je ne sais pas, la souplesse du roseau, du bambou. Il plie d'un côté, il plie de l'autre. Donc, mais bien planté. Donc c'est cette dimension-là. Pour parler de aussi d'un bel exemple, il y a une nonne qui a écrit lors d'un moment d'éveil, un moment d'éveil. Elle écrit « Si votre esprit devient stable comme un rocher et ne tremble plus dans un monde où tout tremble autour de vous, il deviendra votre meilleur ami et vous ne serez plus en souffrance. » Donc on peut dire que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui tremblent en ce moment. Mais c'est vraiment cette possibilité, ce potentiel d'avoir un esprit qui devient, comme je l'ai dit l'autre soir, un allié. Donc, il y a cette possibilité de recevoir la vie plutôt que d'être réactif face à la vie. Donc, par moment, c'est possible. Par moment, on n'a absolument aucune capacité. Puis on dit, oh là là, zéro équanimité. C'est exactement l'inverse. Réactivité, énervement, colère, enfin, tout ce qu'on connaît bien. Très bien, même. Et puis c'est ok. C'est comme ça. C'est comme ça, on est en chemin. C'est ça aussi qui nous permet d'être quelque part dans l'ouverture des choses comme elles sont. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un état particulier. C'est en lien avec les circonstances. Donc on sent bien que cette qualité est présente dans l'enseignement, mais aussi dans la sagesse antique. J'aime bien, j'ai eu beaucoup dans ma jeunesse, avant de rencontrer le bouddhisme, j'avais beaucoup de liens, j'ai beaucoup lu les stoïciens par exemple, et où il y a cette dimension très claire aussi de l'application de la sagesse, une sagesse complètement vivante et intégrée à notre vie, appliquée si on veut. Et les stoïciens disent, il ne faut pas vouloir que les choses arrivent comme on le veut, mais qu'elles arrivent comme elles arrivent. Ça, c'est assez extraordinaire, c'est vraiment très semblable à l'enseignement qu'on a ici et maintenant. Donc on voit très bien qu'on peut apprendre finalement à honorer la vie dans ses hauts et dans ses bas. C'est une telle sagesse de pouvoir se dire, mais oui, il y a les hauts et il y a les bas, et il y a les hauts et il y a les bas. Et que c'est réaliste et à la fois ça peut être optimiste parce qu'il y a une possibilité de développement pour pouvoir aller à la rencontre de la vie et d'avoir un esprit qui devient un ami. C'est très différent. Et ça se passe. Le Dalai Lama, il prône vraiment cette qualité. Il dit cultiver l'équanimité, c'est un travail toujours en cours. Moi encore, j'y travaille. Quelque part d'humilité, je trouve, de modestie. C'est extraordinaire qu'il puisse dire ça. Et puis, il y a justement une personne qui m'a dit, mais comment un travail qui il dit oui, que j'exerce encore. Un travail à exercer, encore et encore. Et puis, on lui demande, mais alors jusqu'à quand? Il a dit, ah ben c'est très simple, jusqu'à l'éveil ou jusqu'au moment de la mort. Donc, on voit bien que, quelque part, les épreuves, elles seront là. Et qu'il y a une possibilité qu'on comprenne que jusqu'à ce qu'il y ait vraiment cette dimension de paix, et de liberté absolue, eh bien, on va avoir des hauts et des bas. Il est dit que dans l'être éveillé, la qualité principale est l'équanimité. Quelle équanimité et que ça donne justement la source pour pouvoir ensuite élargir la perspective et avoir la bonne attitude envers autrui. C'est-à-dire avoir l'attitude de bienveillance lorsqu'il y a besoin de bienveillance, avoir l'attitude de compassion ou de joie empathique. Donc cette dimension, si on veut, d'altruisme provient quelque part d'une attitude de non-attachement. Donc absence d'attachement, aversion ou confusion. Donc je vais dire juste un ou deux mots sur cet aspect de l'équanimité comme quatrième illimité. On l'a un petit peu cultivé ici. Vous en rappelez ? Donc il y a la bienveillance, il y a la compassion, la bienveillance qui est le souhait de vouloir le bien, soit pour autrui, la compassion qui est le souhait de la fin de la souffrance, la joie empathique, pouvoir se réjouir des bonnes circonstances d'autrui, des conditions favorables, on peut dire, et l'équanimité, c'est vraiment ce qui permet de développer les trois autres. Dans le sens que on développe une qualité de stabilité pour justement que la bienveillance ne tombe pas dans l'attachement. C'est l'équanimité qui nous aide à avoir de la compassion, c'est-à-dire de l'ouverture d'esprit, et pouvoir être en présence de la douleur sans l'ajout de se perdre dans l'aversion par rapport à la souffrance. Donc, il y a la douleur, c'est clair, on a conscience, mais être ouvert à la douleur sans résistance, on peut dire, ou en tout cas avec moins de résistance. C'est l'équanimité qui permet ceci. Donc on comprend bien là, waouh, toute cette dimension de potentiel où la sagesse vient quelque part s'imbriquer et que naturellement, comme je l'ai dit un soir dans un des enseignements, finalement tout vient ensemble, ça fait un ensemble. Et que pour la joie empathique, je peux me réjouir du bonheur d'autrui. Parce qu'il y a de l'équanimité, ce qui veut dire qu'il n'y a pas cette dimension d'attachement, de moi, je, d'ego, de oh, c'est pas à moi que ça arrive. Du coup, il n'y a pas la dimension d'envie ou de jalousie. Donc, on peut se réjouir. La joie empathique est exactement ceci. Alors que si il y a quelque part une coloration d'envie ou de jalousie qui est de l'attachement, ou de l'aversion, eh bien c'est difficile que de pouvoir se réjouir, tout simplement pour « Ah, mais qu'est-ce que c'est génial, ta situation !» Et justement, une méditante me disait aujourd'hui même, elle disait « Mais, waouh, l'équanimité, j'ai l'impression que c'est quand même difficile pour moi, j'ai pas tout à fait bien compris. » Et puis, elle évoquait une situation. Elle disait « Ben voilà, il y a 3 ans, j'ai formé une collègue et il se trouve... qu'elle est arrivée bien après moi et qu'elle gagne plus que moi, une collègue de travail. Eh bien, il se passe que je trouve que c'est vraiment clair qu'il peut y avoir un sentiment d'injustice, de la colère. C'est pas normal une situation comme ça. Vous êtes d'accord? Peut-être que ça vous arrive aussi. Vous vous dites, mais ouais, c'est quoi là? Ça joue pas. Et puis... exactement là qu'on peut effectivement avoir à cœur de pouvoir développer cette possibilité. Oui, les choses sont effectivement ainsi. On peut nourrir la présence et puis se rendre compte, bah oui, il y a de la réaction, il y a de la colère, il y a de la justice, je trouve ça complètement anormal, et puis réagir, et puis ça fait 3 ans que je suis dans ce ressassement, ressentiment, ouais, puis voilà, tout à coup il y a plein d'émotions qui me perturbent. Et puis, ben, c'est pas aidant par rapport à la situation. Donc, on peut aussi peut-être aller dans le sens de tiens, qu'est-ce qui se passe ? M'ouvrir, élargir. Puis dire waouh, ok, comment est-ce que je peux m'aider ici, accueillir ces émotions, donc rester en moi, donc faire état de ma situation interne, d'abord, pour appeler à l'équanimité, de me recentrer, qu'est-ce qui se passe au contact des émotions, des perturbations, et de me dire, ben oui, c'est comme ceci. Ou toutes phrases qui peuvent vous aider à accueillir, accepter la situation. Dans un deuxième temps, après, peut-être, c'est possible ensuite d'imaginer à nouveau la situation externe, c'est-à-dire cet autre être, cette personne, et ça peut changer plutôt que d'avoir soit de l'envie ou de la jalousie. Eh bien, il est possible, c'est une possibilité, hein, je ne dis pas que il n'y a personne qui sourit en ce moment. On peut envisager cette possibilité, je veux dire, waouh, je suis dans cette situation, puis tout à coup, l'énergie se réjouir pour l'autre. Là, c'est une situation quand même un petit peu délicate. D'accord. Donc, on comprend bien qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Mais ça va dans le sens. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Ben, il se passe que le rapport, ben, il va dans le sens de plus de sérénité. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans cette attitude d'équanimité, eh bien, je peux aussi prendre mon courage à deux mains et puis aller, je ne sais pas moi, vers le chef ou la chef, puis dire, ben, en sérénité, il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait correct. Et puis envisager ça comme processus. Donc, il n'y a pas qu'un processus de dire, ben ouais, alors là, vous me dites, mais c'est de la résignation, c'est pas l'acceptation. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a énormément de nuances. C'est tellement riche, tout cet aspect, toute cette panoplie de possibilités. Et donc, là, un engagement et l'éclosion qui me permet d'agir, mais agir en conscience. Que ce soit une action où je suis centrée et il peut qu'il y ait à ce moment-là une réponse. Qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse aller voir la personne responsable et qu'on puisse être entendu. Et c'est très différent que d'aller voir cette même personne avec toutes mes réactions, disant « Enfin, ça fait 3 ans, c'est injuste !» et tout. C'est, voilà, ça change toute la donne. Donc, on peut agir sur les événements, les circonstances. Bien sûr qu'on souhaiterait que ce soit différent, mais là, il ne s'agit pas d'une pensée magique. On sent, ah, si seulement, il pouvait y avoir par hasard quelque chose qui pourrait jouer. Il y a une responsabilité qu'on prend et on peut naturellement voir que il y a un rayonnement, si on veut, qui va dans le sens souhaité. C'est possible. C'est possible et ça nous met dans une situation où on peut quelque part se rendre compte à nouveau. Et je peux vous dire que pour mon histoire d'appartement, ça a beaucoup été ça. Hein. J'ai vraiment manifesté énormément d'énergie. Donc toutes ces autres qualités sont aussi là. Hein. L'énergie, le déploiement du courage, de la patience, pour pouvoir changer les choses quand on peut les changer. Et puis quand on ne peut pas les changer, eh bien, pouvoir dire... Ok, c'est ainsi. Des fois on peut, des fois on peut. Donc faire ce qu'il faut quand on peut, c'est vraiment important. Donc dans cette qualité-là, il y a toujours sous-jacent l'équanimité qui aide à vraiment nourrir ces dispositions d'accueil. La bienveillance, oui, mais pas pour l'autre. La compassion, oui, mais avec l'équanimité, laissant la liberté, la responsabilité et la liberté de vie à l'autre personne. Et ça, c'est vraiment, quelque part, la dimension de sagesse, d'équanimité. Et là, je vais vous donner un exemple. On a fréquemment, je veux dire, des personnes qui sont en souffrance, et puis un cercle d'amis avait naturellement... réunit des conditions pour qu'on se rassemble et puis qu'on rassemble l'énergie pour aider cette personne, cette amie qui avait un cancer, et puis bien sûr qu'on a créé un cercle de méta, de bienveillance, et puis vraiment été très active. Puis bon, il se trouve que la vie a fait que cette amie n'a pas guéri, mais au contraire, est décédée. Et puis, on peut se dire, mais bon, c'est injuste. Enfin, il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas juste. Non. Non. On a vraiment fait tout d'une manière extrêmement harmonieuse, paisible, bien. Et il y avait tout au long l'équanimité qui était là. Et à un moment donné, l'équanimité, ça implique ici lâcher prise. De pouvoir lâcher prise. Et c'est ça la sagesse. Dans le sens que il y a des circonstances où on a de la disponibilité, de l'ouverture. Donc c'est pas la pensée magique à dire non, mais tout à coup, voilà, ça n'a pas marché, Meta. Mais ça a très bien marché. C'était magnifique. On l'a vraiment accompagné, je veux dire, vraiment de la manière, c'était sublime. C'était absolument magnifique comme rayonnement de lumière et d'accompagnement, de pouvoir rester ouvert et centré. Donc on comprend que dans cette disposition d'esprit, eh bien, quelque part, c'est pas négligé. C'est vraiment empli de soin, empli d'attention, comme la présence. Et en même temps, on est aussi vraiment très au clair que la vie, eh bien, elle a des cycles, et on en a beaucoup parlé, ce cycle de la permanence, ce cycle du déploiement, et de pouvoir avoir l'alliage, si on veut, de toutes ces qualités qui viennent naturellement éclore. Donc il y a une phrase, quelqu'un m'a demandé la phrase traditionnelle, hein. On a dit je sois bien, que je sois, c'est la phrase de Metta, de bienveillance, ou libre de souffrance pour la compassion. Et la phrase traditionnelle d'équanimité, elle est, à mon avis, très importante. Je crois que c'est très important de l'entendre juste, et je vais terminer par ceci. C'est quelque part, tous les êtres ont leur action entre leurs mains. Tous les êtres ont leur action entre leurs mains. Autant que je peux souhaiter leur bonheur, leur bien-être ou mal-être dépendra de leur action et non de mes souhaits pour eux. Et ça, c'est vraiment cette dimension d'impartialité et de laisser la liberté à chacun du choix de ses actes. Et ça, c'est notre responsabilité dans ce sens-là. Donc, c'est pas vouloir pour l'autre, mais vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour demeurer centré, stable, accompagné, accueillir et laisser la vie, le fleuve, la rivière, continuer d'avoir son cours. Donc, on agit, on exprime, on est vraiment dans une dimension, c'est pas du tout de la passivité, mais agir en prenant soin aussi de laisser la liberté à chaque être. Et ça, c'est preuve de grande sagesse. Donc, il y a vraiment toute une disposition. Donc, voilà, il y a plusieurs phrases, bien sûr. On peut dire « Tous les êtres sont maîtres de leur destin. Leur bonheur et malheur dépendent d'eux et non de mon souhait à leur égard. » Donc, il y a plusieurs formule, si on veut, où tous les êtres font face à la joie et à la peine dans leur vie. Chacun a son chemin. Les choses arrivent comme elles arrivent. Voilà, je vais à nouveau terminer avec un petit texte de Pema Chodron. Comme l'autre jour, alors que nous glissons dans la brèche laissée par l'absence de désir égocentrique, nous faisons l'expérience de la vulnérabilité, d'être parfois exposés à l'anxiété et à la souffrance du monde. Le sentier sur lequel nous nous trouvons dans les moments où nous sommes centrés allie l'esprit lucide et le cœur chaleureux. Il ne suffit pas de vouloir éprouver de la compassion envers autrui. Il faut être vigilant face à l'invasion des pensées et des émotions qui menacent de s'introduire en nous et de briser cette résolution d'ouverture et de bienveillance. Un cœur compatissant peut encore ressentir de la colère, de l'avidité, de la peur et d'autres émotions de ce genre. Mais il peut commencer à les accepter avec égalité d'humeur, avec équanimité, pour ce qu'elles sont. Et il cultive la force d'esprit de les laisser jaillir et disparaître sans s'y identifier ou agir à partir d'elles. Voilà, quelques réflexions sur l'équanimité. On va rester assis juste une ou deux minutes.